Il est l'heure de la chronique européenne. Elle nous est proposée chaque dernier mardi du mois par l'association Braise Europe Finistère. On se concentre sur un sujet ou alors on balaye les actualités de l'Union européenne. C'est plutôt cette option qu'on choisit aujourd'hui Maël Cordeau, le président de l'association, avec l'un des cofondateurs de l'association, Jocelyn Chesnel. C'est d'ailleurs lui qui commence. Bonjour à vous deux.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique sur l'Europe et l'Union européenne. Ces derniers trois jours ont été riches en rebondissements. Aujourd'hui, on vous propose de revenir donc sur trois sujets qui ont fait la une. Au programme, retour sur le très historique dernier Conseil européen, un revirement de situation en Italie, et enfin, un aperçu des dernières dynamiques politiques en cours en France dans le cadre du scrutin européen, et puis quelques actualités politiques. C'est parti !
Et commençons par le sommet européen. On vous le rappelle, le Conseil européen, c'est la réunion des 27 États membres pour se réunir, dialoguer et voter sur les propositions législatives émises par les autres institutions européennes. Ces sommets sont très importants et leur issue n'est jamais certaine. Pour beaucoup de décisions, l'unanimité des 27 chefs d'État et de gouvernement est par ailleurs requise, ce qui peut compliquer certaines choses. Ce dernier sommet avait en tout cas une saveur assez particulière puisqu'il marquait le grand retour de la Pologne pro-européenne à la table des négociations.
Ah, c'est vrai Maël, puisque quelques jours avant, Donald Tusk, figure éminente de la politique polonaise, avait en effet repris ses fonctions de Premier ministre. Il a déjà occupé de multiples fonctions dans son pays, à l'échelle de l'UE, notamment celle de président du Conseil européen. Précisons qu'au cours des dernières années, la Pologne conservatrice de ceux qui ont succédé à Tusk était en fait l'un des États les plus frileux lors des négociations du fameux Conseil, au point d'obtenir des adaptations spécifiques dans le cadre de certains textes. On se rappelle du Green Deal et du charbon, entre autres. Donc le pays était même soutenu régulièrement par la Hongrie de Viktor Orban, en tout cas dès qu'il s'agissait des plans politiques plus réactionnaires. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé là ?
Eh bien, pour ce dernier conseil, les choses ont donc assez changé. En effet, l'autocrate hongrois s'est retrouvé seul opposant lors des discussions liées à l'ouverture des négociations des États candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Avec ou sans les changements politiques récents en Pologne, il eut de toute façon été très isolé sur ce sujet précis qui engage durablement la Pologne, premier pays d'accueil des réfugiés ukrainiens, et Ukraine que la Pologne soutient depuis bientôt 2 ans sans défaut.
C'est vrai, et on vous apprend sans doute pas grand-chose si on vous dit qu'Orban est très proche du dictateur russe, ce qui l'a mis dans une situation indélicate dans le cadre de la validation d'une nouvelle étape de rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne, d'autant plus qu'Orban est quand même allé jusqu'à Washington aux États-Unis, tenter de convaincre les élus du Parti républicain de s'opposer au plan d'aide américain de plusieurs milliards de dollars souhaité par le président Biden au bénéfice de l'armée et de la population d'Ukraine. Pour beaucoup d'observateurs, clairement, c'est ce qu'on peut intituler un cheval de Troie.
En effet, et l'ensemble des autres États du Conseil européen ont quant à eux validé l'ouverture des négociations d'intégration avec l'Ukraine et la Moldavie. Il y a la Bosnie-Herzégovine qui, de son côté, doit attendre encore quelques mois et peut-être surtout fournir de nouvelles garanties. Et enfin, grande nouveauté, la Géorgie a obtenu le statut de pays candidat, ce qui paraissait inespéré il y a encore quelques semaines.
Et étant donné qu'il y a déjà quelques voix qui s'élèvent contre ces annonces, rappelons toutefois une nouvelle fois quelques éléments. L'intégration de nouveaux États membres est un processus extrêmement long qui nécessite de multiples réformes. Par exemple, alors que le Monténégro a obtenu l'ouverture des négociations en 2012, il y a plus de 10 ans, aujourd'hui le pays n'est toujours pas intégré, toujours pas adhérent, malgré des changements politiques drastiques, notamment relatifs à la démocratie nationale ou encore à la lutte contre la corruption. On pourrait affirmer la même chose de l'Albanie, qui est dans une situation similaire vis-à-vis de son processus d'adhésion à l'UE. Mettons donc fin tout de suite au fantasme de plusieurs voix, il faut le dire, des gauches et des droites radicales en France et en Europe. Même avec de l'empressement, l'Ukraine et la Moldavie ne seront pas adhérentes demain.
Et enfin, il y a deux autres éléments essentiels à comprendre. C'est d'abord le rôle de transformation sociétale que joue le processus d'intégration. Et pour le meilleur, pour les États concernés, surtout vu l'héritage yougoslave et ou soviétique de ceux-ci. Et finissons là-dessus, pour ce sujet, l'intégration repose avant tout sur le principe de solidarité.
Et l'autre sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est celui de l'immigration. plus spécifiquement du phénomène migratoire vers les États de l'Union européenne. Tant que la Commission européenne ne délivre pas son projet de mise en commun du contrôle et de l'accueil, les États membres lancent en effet des travaux législatifs. En France, nous avons par exemple récemment fait l'expérience du rejet du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, dont le travail se poursuit néanmoins en commission mixte paritaire. Nous ne sommes ainsi pas les seuls Européens à tâcher de travailler sur ce sujet si sensible, hautement révélateur des visions d'avenir que les uns et que les autres souhaitent proposer.
Tout à fait, et donc direction l'Italie, où Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, avait justement été élue sur un programme profondément anti-immigration, à tel point qu'elle finissait souvent ses meetings politiques en promettant de, je cite, « libérer les Italiens de la migration ». Personne ne peut le nier, en Europe, c'est l'Italie qui, du fait de sa géographie, est parmi les tout premiers États soumis en nombre d'arrivées à la crise de l'accueil des personnes fuyant les persécutions de leur pays natal ou bien celle de la recherche d'opportunités économiques pour se sortir de l'état de misère.
Alors que depuis son accession au pouvoir, le gouvernement de droite extrême italien essaie de trouver des solutions pour tenir ses promesses électorales, il faut bien dire combien rien ne paraît fonctionner comme promis, Giorgia Meloni étant obligée de rétro-pédaler fréquemment, confrontée à la réalité légale de ce qui est rendu possible par le droit et par les seuls faits, et parce qu'il ne l'est pas.
Comme d'autres États européens, l'Italie a par exemple ouvert le sujet de l'externalisation des demandes d'asile, non pas vers le Rwanda, comme le Royaume-Uni par exemple, mais vers l'Albanie, avec laquelle elle a par ailleurs signé un protocole d'entente à cet égard, avant que celui-ci ne soit suspendu par les juridictions suprêmes albanaises, justement du fait de ce que permet le droit international en la matière. Le Royaume-Uni avait par ailleurs aussi connu une pareille réponse de ses autorités judiciaires. Le but d'une telle manœuvre, c'est toujours de traiter les dossiers des demandeurs d'asile en dehors des frontières nationales du pays. L'accord de principe a été signé, mais la Cour constitutionnelle albanaise, saisie par l'opposition, a donc statué sur le statu quo.
Autre revirement de situation de taille pour l'Italie. Giorgia Meloni a annoncé, il y a quelques jours, à la surprise générale, vouloir faire entrer près d'un demi-million de travailleurs étrangers en Italie d'ici 2025. Cette déclaration, elle n'est pas anodine, puisqu'à l'exception notable de l'Allemagne, aucun État européen n'accueille, n'a accueilli ou n'a indiqué vouloir accueillir autant. À l'exception aussi de la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine, comme on l'a dit précédemment, ce qui n'a rien à voir là avec l'immigration économique. Car c'est en effet le manque de bras dans les secteurs en tension partout en Europe et en Italie particulièrement, où la démographie est en berne, qui a justifié cette position étonnante de la présidente Meloni. Cette décision ne sort pas de nulle part, puisque l'Italie est confrontée à un déficit important de son taux de fécondité, parmi les plus préoccupants en Europe, le pays se positionnant 24e sur 27, avec un taux à 1,24 enfants contre 1,83 pour la France qui se positionne première.
C'est donc cet élément qui préoccupe le gouvernement italien et pousse Madame Meloni dans cette voie étroite vis-à-vis des Italiens et de ses électeurs particulièrement, puisque le pays reste aujourd'hui l'un des piliers de l'industrie européenne. Logiquement, il faut ainsi trouver des moyens de ne pas laisser l'industrie du pays mourir de son manque de main-d'œuvre.
Oui, et puis le but, c'est pas de discuter de cette question qui se pose de plus en plus souvent, qu'on pourrait traduire par quelque chose comme « faut-il, oui ou non, faire des enfants ?» mais plutôt de considérer combien le sujet de l'accueil et de l'immigration est en fait assez éloigné du fantasme identitaire entretenu par beaucoup des représentants des droites et des extrêmes droites européennes. La question est globale. Souhaitons-nous accueillir des travailleurs de l'ombre ? Et pourtant, ce sont ceux-là qu'on a appelés « premiers de corvée » au cours de la pandémie de Covid-19. Dans les cuisines de nos restaurants, dans nos champs pour nous nourrir, comme c'est déjà parfaitement le cas, en fait, en France, en Italie et ailleurs encore, et tâcher de les dissimuler, ou bien souhaitons-nous accueillir de futurs résidents intégrés qui participent à la vie économique et donc sociale de nos pays ?
Effectivement, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et enfin, on va attaquer notre dernier sujet du jour, qui est celui, non moins important, des dernières études d'opinion française dans le cadre du scrutin européen, qui ont certes permis de confirmer l'ancrage du Rassemblement national en tête des intentions de vote à 7 mois du scrutin, mais aussi permis de constater d'autres dynamiques à l'œuvre entre décélération et regain d'intérêt.
Oui, puisqu'ainsi, non seulement l'extrême droite classique représentée par le Rassemblement national de Jordan Bardella augmente largement dans toutes les enquêtes d'opinion pour se hisser entre 27 et 29% d'intention de vote des Français, loin devant les concurrents directs. Mais également les autres tenants de cette extrême droite, même si des divergences légères existent, qui sont données à environ 2,5% pour le parti de Dupont-Aignan et entre 6 et 7 pour le parti représenté par Marion Maréchal. En outre, ce qu'on pourrait intituler des micro-dynamiques d'individus comme les Frexiters et le mouvement de Florian Philippot, qui s'ajoutent à cela, on a donc une extrême droite française à 40% des intentions de vote, quasiment, dans l'état actuel des choses. Jamais ces tenants n'ont été donnés aussi haut.
On va évoquer deux enquêtes d'opinion sérieuses qui donnent sensiblement les mêmes résultats pour vous illustrer cette dynamique. Une de l'IFOP qui s'appuie sur un échantillon d'un peu plus de 1000 individus et celle de l'Ipsos pour laquelle l'échantillon est bien plus élevé puisqu'il s'établit à presque 12 000 répondants, ce qui est une méthode permettant de drastiquement réduire les marges d'erreur à maximum 1%. Concrètement, et même si les résultats des deux enquêtes d'opinion sont sensiblement les mêmes, cela signifie qu'en l'état actuel des dynamiques politiques françaises, si une personnalité politique comme Jordan Bardella est donnée avec une liste aux européennes à 28% des intentions de vote, si l'élection avait lieu demain, la présente liste obtiendrait entre 27 et 29% des voix des votants.
Et bien sûr, le partage des voix totales dépendra aussi beaucoup du niveau de participation finale, puisqu'on sait combien cette élection peut mobiliser dans le cadre des campagnes qui sont menées, plus encore depuis que les sujets européens sont sur le devant de la scène médiatique, avec les répercussions de la dernière pandémie et celles liées à la guerre que mène la Russie en Ukraine.
Derrière le RN arrive, en matière de sondage, la liste sans doute menée par Stéphane Séjourné, qui est actuellement député et président du groupe Renaissance au Parlement européen, et donc il mènerait la liste Renaissance, et à savoir aussi les mouvements composant la majorité présidentielle française, le Modem, En Marche, Horizon. Si elle est certes en deuxième position, elle n'est donnée qu'à 20% des intentions de vote, c'est-à-dire très loin derrière le RN, de quasiment 10% derrière. Et ce n'est pas prêt de s'arranger puisque la dynamique des sondages et après-sondages n'est pas en la faveur de ce camp qui perd peu à peu des points, sans doute du fait de l'impopularité des politiques nationales qu'il mène.
Tout à fait, puisque dans un sondage récent, le mouvement mené par Stéphane Séjourné était même donné à 18% et non plus à 20%. Mais la surprise, la vraie surprise, elle intervient en fait s'agissant de la troisième place, puisqu'elle est assez aisément attribuée à l'éventuelle liste Parti Socialiste Place Publique et autres mouvements affiliés, menée comme en 2019 par Raphaël Glucksmann et donnée jusqu'à 10,5% d'intention de vote, à savoir donc une liste en constante augmentation depuis que les sondages relatifs à l'élection européenne 2024 sont menés en France, sans faille, contrairement aux autres listes de gauche, toutes en baisse sondagière.
En 2019, ce sont les Verts qui avaient su tirer leur épingle du jeu et réaliser un très bon score en obtenant la troisième place française. En 2024, c'est donc la liste menée par Raphaël Glucksmann qui prendrait possiblement cette place, suivie de la liste des Verts donnée entre 8 et 10%, suivi de la liste de LFI qui serait elle-même possiblement effacée derrière celle de Reconquête menée par Marion Maréchal pour l'extrême droite, entre 7 et 8% pour les deux partis, c'est dire la désaffection des Français depuis les outrances des représentants de LFI de ces dernières semaines.
Et tout ceci est d'autant plus éclairant que les électorats de l'extrême gauche, notamment celui de LFI, et de l'extrême droite, notamment celui de Bardella et Le Pen, sont des électorats qui se déplacent peu aux élections européennes, puisque ce sont assez largement moins de la moitié de ces électeurs qui ont déclaré aux enquêteurs d'opinion être certains de se rendre aux urnes le dimanche 9 juin.
Et puis évoquons aussi la liste du Parti communiste qui oscille selon les enquêtes entre 3 et 4,5%, et il y a aussi la liste des Républicains qui elle est donnée entre 7 et 9%. On peut dire que c'est une désaffection majeure des Français à l'endroit de ces derniers si cela se confirme. Les individus ayant répondu à l'enquête sont donc surtout ceux certains d'aller voter, et pour ceux-ci, c'est la candidature PS Place Publique et autres mouvements affiliés, et celle de Jordan Bardella pour le RN, qui emporte le regain d'adhésion le plus massif depuis que les sondages relatifs au scrutin 2024 sont menés.
Et puis, pour conclure, on va un petit peu parler de l'association, car c'est le rôle de Brise Europe France, que nous représentons avec honneur à l'antenne de cette radio tous les mois depuis des années maintenant. Moins de 30% des jeunes Français de moins de 25 ans déclarant être certain de se rendre aux urnes le 9 juin. Il faut se rendre compte, moins de 30% des jeunes Français de moins de 25 ans. Notre mission, quasi exclusive, sera de convaincre les 70% restants de l'immensité du défi qui les regarde et donc de l'extrême urgence pour elles et pour eux de voter pour ce qui les regarde et aura des répercussions immenses. Le défi climatique, l'UE est la bonne échelle et les jeunes le savent. Le défi migratoire, l'UE est la bonne échelle et les jeunes le savent. Le défi de la paix sur le continent, l'UE est la bonne échelle et les jeunes le savent. Le défi de la santé commune face aux pandémies possibles et à leur gestion, l'UE est la bonne échelle et les jeunes le savent. Le défi de la lutte en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, l'UE est la bonne échelle et les jeunes le savent. Le défi de la prospérité économique, l'UE est la bonne échelle et les jeunes le savent. Le défi de la précarité énergétique, l'UE, là encore et enfin, est la bonne échelle et les jeunes le savent.
Bon, et bien si avec ça, vous n'êtes pas convaincu d'aller voter aux prochaines élections européennes, c'est que vous êtes un peu dur d'oreille. Merci à Braise Europe Finistère, Braise Europe France, qui nous tient informés des nouvelles de l'Union, qui décortique l'Union européenne. C'est le 30 janvier qu'on retrouvera la prochaine chronique. Ce sera comme toujours en deuxième partie de l'EM.